Donc après une parole d'une élue, nous allons revenir vers la société civile. Donc j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Connie Reuter, secrétaire générale de la plateforme Solidar. Donc Solidar, qui est un regroupement de 60 associations au niveau européen, qui travaille autour de trois piliers, l'éducation, le travail social et la coopération internationale. Donc bonjour Connie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette plateforme européenne?
Oui, bonjour, bon, ça fait plaisir, merci pour l'invitation. La plateforme européenne, moi, je dirais plutôt un réseau européen d'associations de la société civile. Solidar existe depuis 1995 à Paris, je suis à Paris, je confonds Paris avec Bruxelles, non, à Bruxelles, comme réseau avec le nom Solidar avant. Ça s'appelait l'Entraide ouvrière internationale, créée en 1948, et c'était un réseau attaché à la social-démocratie internationale. Mais depuis, il s'est développé, bon, toujours gardant des liens de famille dans un certain sens, mais une émancipation vers vraiment ce que ça représente aujourd'hui en tant que société civile. Donc la particularité de Solidar, c'est que nous sommes présents dans 25 pays de l'Union européenne. Et au-delà, à travers nos membres, nous sommes présents dans 90 pays dans le monde. Donc l'ambition, c'est effectivement, on se veut être une ONG avec une ambition politique, je précise bien politique, mais pas parti politique, justement poser dans les débats européens, pas comme lobbyiste, simplement pour la bonne cause, mais vraiment essayer de développer un impact sur les choix politiques qui sont les choix de l'Union européenne, avec lesquels, bien évidemment, nous ne pouvons pas être contents ni satisfaits, dans la mesure où le résultat que nous voyons aujourd'hui, qu'on voit aussi dans les rues en France, c'est qu'il y a mécontentement social et effectivement les choix qui étaient faits jusqu'ici par l'Union européenne étaient plutôt des choix sur le marché intérieur, c'était le développement économique, le redressement financier et fiscal, et on a complètement oublié la consolidation sociale. Donc notre rôle, c'est bien évidemment de jouer ce rôle de défendre l'intérêt général, l'intérêt social. Notre rôle, c'est aussi de développer des alliances avec d'autres réseaux, ce qui explique pourquoi Solidar a toujours été promoteur et est toujours aujourd'hui très très présent dans des réseaux comme la plateforme Lifelong Learning pour l'éducation, qui regroupe une quarantaine de réseaux européens, dans la plateforme sociale, qui regroupe aussi 46 associations, 46 réseaux européens aujourd'hui, et dans Concorde, qui comprend les plateformes nationales de coopération et de développement, ainsi aussi d'une quarantaine de réseaux internationaux de coopération et de développement. Et avec qui travaillons-nous? Ben, nous travaillons bien évidemment avec les réseaux associatifs, mais en direction des institutions européennes, parce que nous sommes lobbyistes pour la bonne cause.
Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement de plaidoyer que vous pouvez faire au quotidien dans votre travail?
Ben, le plaidoyer commence bien évidemment avec une bonne compréhension de ce qui se passe sur le plan législatif. Donc nous sommes prêts à suivre le travail des différents comités du Parlement européen, que ce soit culte pour l'éducation et la culture, que ce soit emploi pour emploi et affaires sociales, que ce soit DEV pour le développement et la coopération, ou d'autres comme Libé ou Justice ou autres. Donc on suit ça, et la première chose c'est qu'on regarde, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est sur l'ordre du jour qui pourrait être d'une importance pour nos associations.
Donc le premier point, c'est connaître.
Oui, connaître, analyser et décortiquer, traduire un petit peu aussi pour notre réseau. Donc on produit des briefing papers, et les briefing papers, c'est qui expliquent quelles sont les initiatives qui sont prises et pourquoi c'est important pour nos propres réseaux, parce que l'Europe, parfois aussi, ce qui se passe à Bruxelles, il faut le démystifier, il faut faire un travail de sensibilisation, d'explication. Et donc, nous sommes dans cette démarche-là, c'est notre toute première. La deuxième étape, c'est qu'une fois que nous voyons l'importance, là je reste un peu théorique, mais je peux donner des exemples concrets, nous développons avec nos membres les prises de position de Solidar qui font la différence ou qui rejoignent les prises de position d'autres réseaux. Et après, nous nous articulons dans les plateformes que j'ai mentionnées tout à l'heure pour développer avec les plateformes une stratégie commune pour justement, c'est toujours autour des questions de l'impact social, des conséquences sociales. Et après, bien évidemment, on revient vers les institutions. On travaille avec des parlementaires quand ils rédigent des opinions. qu'ils soient rapporteurs ou shadow rapporteurs, c'est-à-dire shadow rapporteurs, c'est ils sont désignés par leur groupe pour travailler sur un dossier, mais ils ne sont pas le rapporteur, mais ils sont le rapporteur à l'intérieur de leur groupe. Mm-hmm. Et après, quand ça passe dans les comités, comme dans les commissions du Parlement européen, c'est là qu'on intervient aussi pour faire un travail de plaidoyer. Et
concrètement, voilà. Vous allez les rencontrer, leur dire attention sur ces positions-là, ça peut avoir ces conséquences-là. Vous êtes de l'alerte ou
ça dépend des dossiers, mais parfois on élabore des positions communes, on prépare quelque chose, on s'échange avec des parlementaires et les parlementaires s'approprient les positions qui sont les nôtres parce qu'on fait du travail de plaidoyer, mais on n'est pas lobbyiste, on ne va pas là avec la une ou deux questions qu'on veut absolument voir dans le rapport ou dans l'opinion.
Donc, vous faites plutôt un travail de médiation, si on peut dire.
Médiation, je ne dirais pas, mais c'est plutôt un travail de partenariat. Mm-hmm. Et comme on a accès à un certain nombre de parlementaires qui sont des amis de Solidar ou qui nous connaissent et qui reconnaissent le travail que nous faisons, c'est moins compliqué qu'on peut l'imaginer. Mais donc, mm-hmm. nous, contrairement à d'autres, nous n'attendons pas devant les ascenseurs pour passer 3 secondes avec un député pour lui expliquer qu'il faut absolument faire attention à cette position ou à cet autre point. Et là où vraiment on peut faire la différence, c'est grâce à l'engagement dans les plateformes. On n'est jamais tout seul et isolé avec une position. C'est-à-dire notre travail d'irrigation passe toujours aussi pour les plateformes parce qu'on voudrait que... On a compris, si c'est Solidar qui a une position, c'est bien. Mais si cette position est intégrée dans un positionnement de concorde de la Lifelong Learning Platform ou de la plateforme sociale, ça pèse autrement parce que ces plateformes sont reconnues comme interlocuteurs des institutions.
Et quand vous dites institutions, c'est quelles institutions exactement ?
Le travail législatif, l'initiative, le droit d'initiative est surtout auprès de la Commission européenne. Et en fonction des dossiers, on traite avec différentes directions générales. Lazare a fait, pour donner un exemple, j'étais impliqué dans 2 manifestations les derniers jours. Dans une, il y avait le commissaire Hahn, qui s'occupe des politiques d'élargissement et des politiques de voisinage. Et dans l'autre, il y avait le vice-président Katainz des Finances, qui nous faisait un discours sur l'éducation. Il considérait plutôt des êtres humains comme des human resources, comme une ressource humaine. Mm-hmm. C'est pas tout à fait notre discours, mais à part ça, une des grandes thématiques sur laquelle on s'est penché les dernières années, c'était de faire comprendre qu'il faut abandonner les politiques stériles et aveugles d'austérité et qu'à la place de l'austérité, on mettrait plutôt des politiques d'investissement social. Il y a le président de la commission Juncker qui avait présenté un plan d'investissement qui est appelé le plan Juncker. Et quand il était présenté tout à fait au début, c'était plutôt l'habituel investissement dans des infrastructures digitales ou concrètes, routes ou autres. C'était vraiment dans les infrastructures classiques. Alors que nous, avec le réseau associatif, on a fait campagne pour faire comprendre que l'investissement social dans l'éducation, dans les services sociaux, dans les services publics ou autres, que ce n'est pas quelque chose qui se mesure par les questions des chiffres de la dette.
Bien sûr.
Mais c'est un investissement à moyen et à long terme. Mais là, c'est inverser la courbe, c'est s'attaquer vraiment à quelque chose de très réel. Et le dossier plus récent, dont certainement parlera aussi la députée Isabelle Thomas, qui a été invitée, elle était co-auteure de la proposition du Parlement européen pour le plan de financement pluriannuel, le prochain budget de l'Union européenne, et ça doit se concrétiser dans des chiffres aussi. Est-ce qu'on met tout sur l'agriculture? Quelle est la place du Fonds social européen? Quel est le pourcentage à l'intérieur du Fonds social européen pour l'intégration sociale? Combien est prévu pour le programme Erasmus, pour l'investissement de l'éducation? C'est des questions très concrètes.
Donc c'est vraiment des choix politiques qui doivent être portés par nos représentants au niveau du Parlement. Justement, on est sur cette question des droits sociaux, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le pilier sur les droits sociaux qui est actuellement...
Oui, le pilier européen des droits sociaux, voilà, est-ce qu'on va dire que c'est un grand exploit? J'hésite, mais au moins... on peut dire que c'était, je vais l'expliquer, pourquoi c'est quelque chose qui est important et qui peut représenter un progrès. Il y a 3 ans, la Commission européenne a lancé une grande consultation de qu'est-ce que ça devait être un cahier qu'ils ont appelé socle européen ou pilier européen des droits sociaux. Pourquoi ? Parce que enfin, au bout d'un certain nombre d'années, ils ont compris que face à l'inégalité croissante à l'intérieur de certains États membres et entre des États membres, et avec les riches devenus beaucoup plus riches et les pauvres plus pauvres, fallait réagir si on voulait assurer une certaine cohésion de l'Union européenne. Le point de départ et la difficulté résident dans le fait que, officiellement, selon les traités, les politiques sociales ne sont pas une matière de compétence de l'Union européenne. Et nous avons un clivage nord-sud très important au niveau de l'Union européenne entre les pays nordiques et qui sont, c'est pas simplement les pays scandinaves, j'y mettrai aussi l'Allemagne, qui ont des systèmes sociaux très forts et qui sont économiquement très forts. Et ils voient toujours un mauvais œil toute initiative de l'Union européenne pour dire voilà, est-ce que ça va être un abaissement de nos standards et de nos niveaux, ou est-ce que, et ça c'est une autre question, dans quelle mesure un tel pilier peut aider à effectivement permettre aussi aux pays du Sud et de l'Europe centrale et de l'Est de tendre plutôt vers des niveaux comme les pays riches du nord de l'Europe. Donc pour ça, la Commission a fait de nombreuses consultations, avec les partenaires sociaux, avec les réseaux associatifs, avec les gouvernements, ainsi de suite. Et là,
vraiment, avec vous, par exemple,
et nous aussi, pendant 2 ans, on était fortement impliqués dans tout cela. Au Parlement européen, il y a la députée social-démocrate socialiste Maria João Rodrigues, vice-présidente du groupe social-démocrate, qui était chargée de rédiger l'opinion du Parlement européen. Et donc, nous, on a travaillé très étroitement avec Maria, qui est une amie de Solidar aussi, et qui a consulté largement les partenaires sociaux, les syndicats et les associations. Et on a obtenu un certain nombre de choses importantes dans le pilier. Donc le pilier aujourd'hui, c'est un cahier de 20 principes. Et ce qui est très positif, et je crois que ça doit intéresser aussi les CMA, c'est qu'il commence pas avec le marché du travail, on commence avec la question de l'éducation, en considérant que c'est un investissement. Donc les bons principes, je ne vais pas les citer, mais on peut les consulter sur le site de la Commission. Aujourd'hui, on a ce cahier-là, on a le pilier européen des droits sociaux, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cela ? Et quel est l'impact ? Quel est l'impact aussi pour la législation ?
Oui, parce que le pilier n'est pas contraignant pour les États.
Non, le pilier, c'est un cahier de recommandations. Et d'ailleurs, c'était toujours un point qu'on a, dès le départ, on avait dit qu'on voudrait quelque chose qui soit contraignant pour les États membres. Mais c'est plutôt une sorte d'orientation des États membres. Mais quand même, ça peut avoir un impact. Commençons avec ce qu'on appelle le processus du semestre européen, qui est l'étude annuelle de croissance de l'Union européenne, qui jusqu'ici ne faisait que regarder les taux de croissance et aussi les questions d'endettement et les questions aussi de budgets nationaux. Et là, maintenant, avec le pilier, il y a une autre grille de lecture qui est importante parce que dans ce qu'on appelle le benchmarking, la question du social est enfin intégrée. Timidement, mais intégré.
Donc, du coup, qu'est-ce que vous appelez le benchmarking ?
Le benchmarking, c'est les taux de chômage des jeunes. C'est les indicateurs. Oui, pardon. C'est les indicateurs chômage des jeunes, chômage de longue durée, chômage de femmes, de jeunes femmes. Vous avez toute une série d'indicateurs qui dressent un bilan, ou plutôt qui font c'est une photographie sur la situation sociale actuelle de l'Union européenne. Et là, introduire maintenant des indicateurs qui sont orientés et inspirés par le pilier européen, c'est très positif.
Mais là, ça a été fait ou ça va être
fait ? Oui, dans la dernière, ça vient d'être fait. C'est bien évidemment, ça reste dans les rapports, ça reste dans les processus, mais concrètement, et là, le pilier aide. Nous avons des dossiers sur la table qui concernent la vie sociale et la situation du travail et du marché du travail en Europe au quotidien. Commençons avec la question du détachement. On a obtenu une directive, la terminologie est un peu lourde, une directive interprétative de la directive de détachement des travailleurs. C'était quoi ? C'était bien évidemment faire en sorte pour qu'un plombier polonais, je me souviens de la campagne 2005, le plombier polonais qui travaille à Paris, par exemple, soit soumis aux conditions d'emploi françaises. et pas polonaise. Hein, mmh. Et comme ça, pour éviter la concurrence sur le marché du travail, concurrence déloyale. C'était un long, long débat, mais en fait, dans la mouvance du pilier, on a obtenu ça.
Mmh. Après, ça inspire en fait...
C'est une référence. C'est une référence. C'est et en référence, on peut toujours se référer à une référence. Donc du coup, ça aide. D'autres dossiers, c'est bien évidemment c'est les conditions de travail, les conditions de licenciement. En anglais, ça s'appelle Predictable Working Conditions. Ça veut dire, c'est comment... anticipation des conditions de travail. Et là aussi, bien évidemment que les licenciements ne soient pas des licenciements secs comme ça arrive souvent en France et ailleurs, que les travailleurs viennent le matin dans leur usine, dans leur entreprise, et la porte est fermée, c'est fini. Non, il y a un droit de travail doit être, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, la Commission européenne aussi a travaillé d'une autorité européenne, l'inspection du travail. Bah, ça serait très bien. Les États membres sont très hésitants. Mais sans le pilier, on ne verrait pas ça. Après, il y a toujours le dossier de la reconnaissance de l'implication dans les systèmes sociaux. Mm-hmm. La mobilité choisie ou imposée aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a beaucoup de travailleurs à travers l'Europe qui travaillent dans un autre pays. Et la question de la reconnaissance des droits et la portabilité des droits par rapport à la pension, par la protection sociale, ainsi de suite, est un grand dossier. Donc, je dirais... C'est pas encore là, c'est pas gagné, hein. Mais au moins le pilier présente un cadre de référence et il permet d'influencer dans le travail du plaidoyer les choix autrement que c'était le cas sans le pilier.
Et en matière d'éducation, concernant le pilier, vous pouvez nous en dire un peu plus ?
En matière d'éducation, c'est effectivement la première traduction, ça va être quid du financement d'Erasmus. Bon, je crois c'est le programme européen qui finance non simplement les étudiants qui font la fête à Barcelone ou ailleurs, c'est Erasmus, c'est effectivement la coopération entre enseignants, c'est les échanges, c'est des projets autour de l'éducation très importants. Et si on arrive à doubler Erasmus, je veux dire, ça permet quand même d'arriver sur ce qui serait vraiment une communauté européenne de l'éducation. Parce que les systèmes d'éducation sont des systèmes nationaux. Et dans mon pays, c'est encore pire parce qu'on a 16 Länder en Allemagne, comme vous le savez, et on a 16 ministres de l'éducation. Donc, pour avoir déjà la coordination en Allemagne entre le système bavarois et celui de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, des grandes batailles. Alors, sur le plan européen, c'est un peu similaire.
Donc, je dirais, oui, pardon. L'éducation est le budget le moins important au niveau européen
Oui, parce que, pareil, normalement, officiellement dans les textes, l'Union européenne n'a pas compétence dans la matière. Donc, elle ne peut que développer des programmes de soutien. Mmh. Et on est parti de là. Et je crois ce que vous faites. Hein, et c'est pas. On fait partie de. On soutient la campagne contre la marchandisation de l'éducation. Parce que, mais évidemment, ça fait toujours très moderne. Hein, c'est devenu un business quand il y a une nouvelle technologie, ainsi de suite. Nous, on n'est pas vieux jeu, mais on reste attaché à l'idée que c'est un bien public et qu'on défend l'idée du bien public. Ensuite, la question aujourd'hui, quelle peut être aussi en termes d'éducation à la démocratie, quels peuvent être les programmes qu'on soutient, comment on peut vraiment sensibiliser aussi, et je crois que c'est quelque chose qui devient de plus en plus crucial dans l'éducation, la formation des citoyens dans le sens où réapprendre ce qu'est le fonctionnement de la démocratie, c'est-à-dire trouver des compromis, trouver et respecter des décisions minorité-majorité, c'est très essentiel. Et à mon avis, ça commence déjà à la maternelle, hein. Après c'est ou en Allemagne dans le kindergarten, et après c'est à l'école, et en dehors de l'école, c'est mon avis. Et je crois que là, l'éducation peut jouer un rôle. Par contre, parfois, les ministres de l'éducation surchargent le rôle de l'éducation en croyant que, et on a vu malheureusement l'attentat meurtrier à Strasbourg, que l'éducation pourrait aider à la déradicalisation des individus, des petits criminels qui sont devenus après qui passent à des actes comme on l'a vu à Strasbourg. Là, je crois qu'il ne faut pas rêver. Ce n'est pas l'éducation qui va résoudre ce problème, c'est beaucoup plus complexe. Mais on est toujours tenté, et je crois que c'est malheureux de le dire, mais c'est contre ça qu'on se bat, on est toujours tenté par trouver dans tout ce que fait de l'Union européenne une certaine utilité. Mmh. Hein. Et entre l'utilitaire et l'ambition, nous, on est plutôt en faveur de définir d'abord l'ambition, et de défendre le bon vieux principe qui est, on regarde d'abord l'impact social des mesures qui sont discutées, décidées et mises en application, et ensuite on regarde évidemment le reste. Mais l'ambition doit être un virement vers le social. Et je crois que, gilets jaunes ou pas, ce qui se passe en France, c'est le meilleur exemple qu'on paye le prix très fort de ce qui n'a pas été fait pendant très très, très longues années. Pourquoi je le dis ? Vous avez mentionné les piliers des droits sociaux. On a pendant 20 ans, on n'avait pas de sommet social de l'Union européenne. On a des sommets pratiquement toutes les 6 à 8 semaines, mais on n'a jamais eu un sommet social. Donc, après le Luxembourg en 97, finalement en 2017, on est venu à Göteborg au bout de 20 ans pour avoir à nouveau un sommet social européen qui n'était pas contraignant, qui était de beaux discours, mais au moins il a donné naissance à un pilier qui est un carnet d'orientation, je dirais.
Très bien, je vous remercie Connie Reuter pour toutes ces explications, éclairages sur cette Europe qu'on espère progressiste dans le futur.
Il faut continuer à se battre. On n'a pas gain de cause, mais on a besoin des réseaux aussi d'éducation populaire à se regrouper au sein de Solidar ou peut-être dans d'autres réseaux, mais de préférence chez nous, pour mener ce combat et bien évidemment pour peser sur les choix, parce que sinon les gens ne vont pas simplement déserter les urnes, les gens vont déserter aussi l'idée de l'Europe. Et là, on sait que ça donnait. Je ne suis pas toujours un grand fan de François Mitterrand, mais je le cite toujours, le nationalisme, c'est la guerre. Il ne faut pas oublier.
Merci Connie et je vous souhaite de belles rencontres européennes du social à Paris.
Merci.